الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، toutes les louanges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous réunir fraternellement, bien que cette réunion ne soit pas en présentiel, il n'en demeure pas moins qu'elle est tout aussi spirituelle. En cette journée du 26 du mois égyrien de Sha'ban, de l'an 1447, de l'égir du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au samedi 14 février 2026, pour traiter un thème important qui représente un grand besoin qui se fait sentir en la personne du musulman et de la musulmane. Comme ceci a été annoncé, les moyens permettant de se délivrer des péchés. Nous le traiterons, inshallah ta'ala, en deux séances. Celle-ci est donc la première. Et nous traiterons aujourd'hui de 10 points qui permettent à la personne de se détacher, de se délivrer, de se libérer, de se délier des péchés. Nul doute que les péchés ont des conséquences néfastes et gravissimes dans la vie de la personne, dans ce bas monde, dans l'au-delà, tant dans ses biens que dans sa droiture, dans sa religiosité, dans sa santé, dans sa réussite ou son échec, dans tout ce qu'il entreprend. Le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala est sujet à l'ajout ou à la diminution de la baraka, de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nul doute que l'ennemi juré d'Allah, Iblis, au sujet duquel Allah Azza wa Jal a dit « Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir » Il ne fait qu'appeler son parti à le rejoindre dans le nombre des gens de la fournaise. Iblis sait que pour détruire ce serviteur, il doit avoir recours à la ruse, le poussant à désobéir à son Seigneur, que ce soit en délaissant des obligations ou en commettant des interdits. Et les péchés sont multiples et variés. Il y a les péchés majeurs, qui sont les plus gravissimes, et il y a les péchés mineurs, qui sont aussi graves, mais pas au point d'avoir les menaces évoquées dans les textes. Quoi qu'il en soit, le serviteur qui commet des péchés et qui cause du tort à son être, à son propre détriment, est invité par Allah subhanahu wa ta'ala au retour à lui, au repentir. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Avant que ne vous vienne le châtiment et vous ne serez alors aucunement secourus. وَاتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Et suivez ce qui est descendu vers vous de votre Seigneur. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً Avant que ne vous vienne le châtiment de façon subite, de façon imprévue. Avant que ne vous vienne le châtiment de façon imprévue. Et dans la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً » Avant que ne vous vienne le châtiment de façon imprévue et que l'un d'entre vous dise « يَا حَسْرَةً عَلَى مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ » Oh malheur à moi, hélas, j'ai eu des manquements envers Allah et je faisais partie des railleurs. Ainsi, le musulman doit se délivrer des péchés et revenir à Allah. Mais nombreux sont ceux et celles qui demandent « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en séparer ? Je sais que c'est mauvais, que ça me cause du tort, mais je n'arrive pas pour autant à m'en séparer. » Et c'est pour cette raison que les nobles savants ont traité ce sujet, parmi lesquels le grand savant, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, qui a évoqué 20 points dans l'un de ses ouvrages intitulé « Uddatu al-Sabirin » wa dhakhiratu shakirin. Cet ouvrage qui traite de l'endurance et la patience dont doit faire preuve le croyant, que ce soit lors des malheurs qui le touchent ou au cours de l'accomplissement des bonnes actions qui nécessitent de l'endurance, mais encore l'endurance dont il a besoin pour s'abstenir de péché. Et il a consacré un chapitre qui traite justement des moyens menant la personne à se délivrer, à se débarrasser complètement des péchés. Nous allons donc, incha'Allahu ta'ala, en citer aujourd'hui 10. Et dans une deuxième intervention proche, incha'Allahu ta'ala, nous citerons les 10 autres. Et ainsi, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui va suivre ne soit pas que des paroles qui sont lues ou entendues par les yeux et les oreilles, mais plutôt qui soient vues et entendues par le profond du cœur. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a donc cité ces points-là que l'on va traiter incha'Allah ta'ala. Le premier point, le premier moyen menant la personne à se débarrasser des péchés, c'est la vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait de lui reconnaître son immensité, sa splendeur, sa grandeur, sa perfection, au point de ne pas lui désobéir alors qu'il voit et entend. Car celui dont le cœur est habité par la conscience de la majesté d'Allah ne peut absolument pas se résoudre à la désobéissance, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Le fait de remplir ton cœur de vénération pour Allah, subhanahu wa ta'ala, lui qui a dit « وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ » et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. Alors que le jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. والسماوات مطويات بيمينه. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. سبحانه وتعالى عما يشركون. Exempt soit-il de toute imperfection. Et il est bien au-dessus de tous ceux qui lui associent. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous invite à le vénérer, à reconnaître sa grandeur, lui qui a créé les cieux et cette terre immense qui ne fera que une poignée pour lui le jour de la résurrection. Lui qui pliera les 7 cieux. Est-ce qu'il convient à l'un d'entre nous de lui désobéir? Allah subhanahu wa ta'ala va jusqu'à nous enseigner que le prophète Nuh alayhi salam, s'adressant à son peuple, a dit « Ma lakum la tarjouna lillahi wa qara » Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Allah comme il se doit? C'est une traduction du sens voulu par la phrase citée dans ce verset. Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Allah comme il se doit? وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا Alors qu'il vous a créé en plusieurs phases, en plusieurs étapes. L'imam Ibn Abbas, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhuma, a dit مَا لَكُمْ لَا تُعَظِّمُونَ اللَّهَ حَقَّ عَظَمَتِهِ Qu'avez-vous donc à ne pas reconnaître à Allah l'immensité qui est la sienne, à ne pas vénérer Allah comme il se doit. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, nous dit « Celui qui vous a créé avec plusieurs phases, phase après phase, Allahu Azza wa Jal nous a donné vie au final. Et celui qui nous a créé à partir de toutes ces phases, c'est-à-dire à partir de la goutte de sperme du père, puis l'embryon, et ainsi de suite, puis l'enfant quand il naît, il évolue, il grandit avec sa croissance, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il atteigne la pleine maturité. Celui qui vous a créé de cette façon-là est lui qui est plus à même de recevoir votre vénération. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la prière du Maghrib, dans laquelle il récitait quelques versets de Sourate At-Tur, est arrivé à lui Jubayr ibn Mut'im, ce noble compagnon, radiyallahu anhu, qui n'était pas encore musulman, mais qui s'est rendu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour négocier avec lui les captifs de la bataille de Badr. Lorsqu'il est arrivé, il a aperçu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, debout en prière. Il s'est donc mis à l'attendre. Mais le prophète, alayhi salatu wa sallam, lisait le Coran et est arrivé à réciter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqoun am khalaqu s-samawati wal arda bal la yuqinoun am indahum khazain rabbika am humul musaytirun » dans l'essence des versets. Est-ce qu'ils se sont créés eux-mêmes ou ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils eux-mêmes les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Vraiment, ils sont incertains. Le compagnon Jubayr ibn Mut'im nous dit, lorsque j'ai entendu ces versets, mon cœur a failli s'envoler. Et c'est à ce moment-là que la foi est venue s'ancrer et s'installer dans mon cœur. Ces deux versets lui ont suffi pour réfléchir sur l'immensité du Seigneur des mondes, qui leur dit, à eux qui ne croient pas en lui, « Pensez-vous avoir été créé à partir de rien ? Ou croyez-vous que vous êtes vous-même vos propres créateurs ? Il est impossible que l'on soit les créateurs de nos personnes. Et lorsque l'on contemple cette magnifique créature qu'est l'être humain, avec ses complexités, on se rend compte qu'il y a derrière un être puissant et sage, qui mérite donc qu'on lui reconnaisse sa grandeur. Et c'est pour ça que Bishr ibn al-Harith al-Hafi, rahimahullah, des pieux prédécesseurs, a dit « لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه » Si les gens méditaient sur la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur son immensité, ils ne lui désobéiraient jamais. Le deuxième point pour se délivrer des péchés, c'est la conscience de son amour. Le fait de ressentir pour lui, subhanahu wa ta'ala, un amour tel qui pousse le serviteur à délaisser le péché par amour pour son Seigneur. Même s'il aime ce péché, il aime son Seigneur encore plus. Et son amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a comblé de tous ses bienfaits, qu'il l'a protégé, qu'il a guéri après avoir été malade, qu'il a délivré après la calamité, qu'il a exaucé ses demandes et lui a accordé ce dont il avait besoin, n'est-ce pas qu'il mérite tout ton amour? Lorsque l'un d'entre les gens te rend service, tu te mets à l'apprécier et à l'aimer davantage. Lorsque un musulman, un croyant, une personne vient à ton service, vient te délivrer d'une calamité, elle prend une place importante dans ton cœur et tu te rappelles d'elle. Que dire alors du Seigneur qui t'a créé, qui t'a nourri, qui t'a abreuvé, qui t'a octroyé la subsistance? Ne mérite-t-il pas d'être aimé? Et cet amour-là ne pousse-t-il pas à délaisser la désobéissance? Celui dont le cœur est habité par la conscience de la majesté, pardon, le meilleur des abandons, car celui qui aime obéit à celui qui aime, qu'il aime. Lorsque tu aimes Allah Azza wa Jal, tu lui obéis. C'est pour cela que l'on trouve des fois un enfant, jeune ou moins jeune, qui ne va pas commettre la turpitude par amour pour ses parents qui lui ont donné une bonne éducation. Et je me souviens, lorsque j'étais enfant, de certains parmi les enfants qui étaient appelés, invités à des choses mauvaises, ils ne répondaient pas simplement pour l'amour qu'ils avaient pour leurs parents. Subhanallah. Que dire alors de l'amour que l'on doit avoir pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des abandons est l'abandon motivé par l'amour. Tout comme la meilleure obéissance est l'obéissance motivée par l'amour. Il y a une différence immense entre l'abandon et l'obéissance de celui qui aime et l'abandon et l'obéissance de celui qui agit par crainte du châtiment, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Lorsque tu fais parce que tu aimes, lorsque tu pries par amour pour Allah, c'est différent de la situation de la personne qui prie par crainte d'Allah Azza wa Jal. Le plus haut degré, c'est l'amour. Lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, lorsque tu obéis à tes parents, lorsque tu as un bon comportement, lorsque tu es véridique dans tes propos, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pas seulement par crainte, eh bien nul doute que tu atteins un grand degré. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a décrit ceux qui ont la foi en disant d'eux, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui ont eu la foi sont plus ardents dans l'amour d'Allah. Lorsque le serviteur remplit son cœur d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien cet amour-là fera dévier le serviteur de la désobéissance. Car les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala lui font perdre une grande part de l'amour d'Allah. Plus tu désobéis à ton Seigneur, moins tu l'aimes. Et moins tu l'aimes, moins tu désires lui obéir. Et tu n'as qu'à regarder dans ton quotidien, en tant que croyant et croyante, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas d'engouement à obéir à Allah, à prier, à faire ce qu'Allah aime? C'est qu'il y a un manque d'amour d'Allah. Et ce manque d'amour est dû au péché, justement. Alors que la désobéissance, elle, alors que l'obéissance, pardon, elle fait augmenter la foi. Et celui qui aime vraiment Allah Azza wa Jal, lui obéit. Et plus il l'aime, plus il lui obéit. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dit, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il est certes pardonneur et miséricordieux. Si tu veux prouver l'amour que tu portes au Seigneur, alors il faut lui obéir. Et le poète a dit, تَعْصِي الْإِلَهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ. Tu désobéis à Allah tout en prétendant l'aimer. Cela est impossible selon une logique évidente. Si ton amour était sincère, tu lui obéirais, car celui qui aime obéit à celui qui l'aime. Ces vers de poésie ont été attribués à plusieurs grands imams tels que l'imam Shafi'i et l'imam Ibn al-Mubarak, rahimallahu ta'ala al-jami'a. Troisième moyen de se délivrer des péchés, la conscience des bienfaits d'Allah et de sa bienfaisance à notre égard. Le fait de se rappeler combien Allah a été bon envers nous et combien sont immenses ces bienfaits par lesquels il nous gratifie chaque jour. Lorsque tu discutes avec une personne qui te dit quotidiennement « comment vas-tu ?» cette fameuse phrase qui dit « quoi de neuf ?» il t'arrive de répondre « rien de neuf, rien de spécial ». Cette phrase est erronée, car chaque jour où tu te lèves, il y a du nouveau. Il y a les bienfaits d'Allah qui ne cessent de se renouveler. Il y a cette santé que tu as eue hier qui se renouvelle aujourd'hui. Il y a cette subsistance que tu as eue hier qui se renouvelle aujourd'hui. Il y a le fait d'observer, de voir ta famille autour de toi qui se renouvelle. Chaque jour, les bienfaits d'Allah se renouvellent. On ne dit pas qu'il n'y a rien de nouveau. Bien sûr que tous les bienfaits d'Allah se renouvellent chaque jour. L'homme noble, nous dit l'imam al-Qayyim rahimahullah, ne répond pas à celui qui l'a comblé par l'ingratitude. Seuls les êtres vils agissent ainsi, que la contemplation des bienfaits et des largesses d'Allah empêche le serviteur de désobéir par pudeur envers lui, de sorte que les bienfaits d'Allah descendent vers lui, tandis que ses désobéissances et ses laideurs s'élèvent vers son Seigneur. Un ange descend avec ceci, un autre monte avec cela. Quelle abominable réciprocité. Allahu Akbar. Un ange descend avec les bienfaits d'Allah sur toi, mais tu lui désobéis. Alors le deuxième ange, lui, il prend tes œuvres et les monte à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est correct de prendre les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et de lui rendre en retour de la désobéissance? Vous devez certainement connaître le récit de Youssouf alayhi salam, qui a été abrité, élevé et qui a vécu dans la maison du gouverneur en Égypte, dont l'épouse a tenté de séduire Youssouf alayhi salam et l'appeler au mal. Parmi les causes menant Youssouf à se délivrer de cette tentation, c'est bien cette parole dans laquelle il a dit « قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ » Il a dit « Je cherche le refuge auprès d'Allah. C'est certes mon maître, il m'a accordé l'asile. » C'est-à-dire, cet homme-là qui m'a accueilli chez lui et qui m'a comblé en m'ouvrant sa porte, en me permettant d'évoluer, de grandir dans sa maison. Comment pourrais-je lui rendre ce bienfait en répondant à la tentation de son épouse? Le fait de se rappeler le bienfait te pousse à dire merci et t'empêche d'être ingrat. Ça, c'est envers la créature, mais à plus forte raison envers le Créateur. Et l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi nous rapporte dans son livre « At-Tawabin, les repentants », l'histoire du salaf Ibrahim ibn Adham, un homme qui avait plein de sagesse. Quelqu'un est venu le voir et lui a dit « Ya Aba Ishaq, inni musrifun ala nafsi. Ô Abu Ishaq, je commets des détriments, je commets des excès à mon propre détriment, avec mes péchés. » فَعَرِضْ عَلَيَّ مَا يَكُونُ لَهَا زَاجِرًا وَمُسْتَنْقِذًا لِقَلْبِي. Alors montre-moi un peu quelque chose qui pourrait gronder mon âme et réveiller ou sauver mon cœur. Alors Ibrahim ibn Adham lui dit إِنْ قَبِلْتَ خَمْسَ خِصَالٍ وَقَدِرْتَ عَلَيْهَا لَمْ تَضُرَّكَ مَعْصِيَةً وَلَمْ تُوبِقْكَ لَذَّةً. Si tu acceptes les cinq choses suivantes et que tu en es capable, alors la désobéissance ne te causera aucun tort. Il lui dit, Hati ya Aba Ishaq, donne-moi donc ces cinq choses. Il lui dit, quant à la première, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْصِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ فَلَا تَأْكُلْ رِزْقَ. Si tu veux vraiment désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, ne mange donc pas sa subsistance. L'homme lui dit, Famine aina akulu, wa kullu ma fil ardi min rizqi. Où pourrais-je donc manger, alors que tout ce qui est sur terre fait partie de sa subsistance? Ibrahim lui dit, Ya hada, afayahsunu an ta'kula rizqahu wa ta'siyah. Ô toi, est-ce qu'il convient que tu manges sa subsistance et qu'en retour tu lui désobéisses? L'homme lui dit, donne-moi la deuxième. Ibrahim lui dit, lorsque tu veux lui désobéir, fais en sorte de ne pas habiter dans une terre qui lui appartient. L'homme répond, cette chose est bien plus compliquée que la première. Car si l'Orient et l'Occident et ce qui se trouve entre les deux lui appartiennent, où est-ce que je peux aller? Ibrahim lui dit, ô toi, est-ce qu'il convient que tu manges de sa subsistance et que tu peuples sa terre, puis que tu lui désobéisses? L'homme lui dit, donne-moi alors la troisième. Ibrahim lui dit, quand tu veux lui désobéir, alors que tu es sous sa subsistance et dans sa terre, recherche un endroit où il ne peut pas te voir et va lui désobéir. L'homme lui dit, comment cela pourrait-il être possible alors qu'il connaît le fort intérieur? C'est-à-dire à plus forte raison, a fortiori, s'il connaît le contenu du cœur, il connaît alors le contenu de la terre. Ibrahim lui dit, ô toi, est-ce qu'il est correct que tu manges de sa subsistance, que tu peuples sa terre et que tu lui désobéisses alors qu'il te voit et il te voit oser l'affronter par le péché? Il lui dit, alors donne-moi la quatrième. Ibrahim lui dit, quand viendra à toi l'ange de la mort pour reprendre ton âme, dis-lui, attends un peu, retarde mon délai, afin que je puisse me repentir correctement et faire de bonnes actions. L'homme répond à Ibrahim, l'ange de la mort n'acceptera jamais cela de moi. Ibrahim lui dit, ô toi, si tu ne peux pas repousser la mort afin de te repentir, si tu sais que quand la mort vient, tu ne pourras pas la retarder, comment peux-tu penser que tu vas t'en sortir? L'homme lui dit, donne-moi la cinquième idée. Ibrahim lui dit, إِذَا جَاءَتْكَ الزَّبَانِيَّةِ, lorsque les anges d'Allah viendront le jour de la résurrection, لِيَأْخُذُوكَ إِلَى النَّارِ, pour te prendre avec eux en enfer, فَلَا تَذْهَبْ مَعَهُمْ, ne va pas avec eux. L'homme répond, ils ne me le permettront pas, ni ne l'accepteront de moi. Ibrahim lui dit, فَكَيْفَ تَرْجُنْ نَجَاتَ إِذَنْ, comment alors pourrais-tu espérer le salut? L'homme lui dit, Ya Ibrahim, hasbi, hasbi, ana astaghfirullah wa atubu ilayh. Ô Ibrahim, ça me suffit. Quant à moi, j'implore le pardon d'Allah et me repens à lui. Subhanahu wa ta'ala. Le quatrième moyen évoqué par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah pour se délivrer des péchés est la conscience de la colère et de la vengeance d'Allah. Avoir à l'esprit combien est grande la colère d'Allah contre celui qui refuse de lui obéir et combien est dangereuse sa vengeance. Lorsque le serviteur persiste dans le péché, le Seigneur très haut se met en colère et lorsque sa colère éclate, rien ne peut lui résister, a fortiori ce faible serviteur. Il faut méditer sur la colère d'Allah qui a dit فَلَمَّا أَسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ, lorsqu'ils nous mirent en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Allah nous parle dans Surat Az-Zukhruf de gens qui lui ont désobéi au point de le mettre en colère. Une fois mis en colère, il les a vengés et leur a infligé un lourd châtiment dans ce bas monde. Que dire alors du châtiment de l'au-delà? Qu'Allah nous en préserve. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. Et quiconque voit ma colère s'abattre sur lui, ce sera vraiment égaré. Pose-toi donc la question suivante. Est-ce que mon mode de vie, est-ce que mes choix, est-ce que mes paroles, est-ce que mon comportement, est-ce que mes habitudes, est-ce que mes actions provoquent sur moi la colère du Seigneur des mondes ou sa satisfaction? Arrêtons de nous mentir. Cessons la distraction. Sortons de ce sommeil profond dans lequel nous sommes et de cette ivresse dans cet attachement à la dunya qui fait que l'un d'entre nous sort au matin de sa maison sans savoir s'il va racheter son âme ou plutôt la détruire. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Kullu nafsin tardu » Chaque âme sort le matin. « Fa ba'i'un nafsa » et va se vendre. « Fa mubiquha aw mu'tiquha » et pour se détruire ou se racheter. Méditons un peu, chers frères et sœurs. Lorsque l'on sort le matin de chez nous, est-ce que l'on se demande si Allah est en colère contre nous ou satisfait de nous? Quand on tient des propos, quand on fait des actions, quand on prend des décisions, quand on fait des choix, est-ce que l'on se demande si Allah est en colère contre nous? Lorsque l'on va dans des endroits détestés par Allah, est-ce que l'on se demande si Allah est en colère contre nous? Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit le cinquième moyen de se délivrer des péchés. La conscience de la perte. Ce que le péché fait perdre comme bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi que les qualificatifs blâmables, rationnellement, légalement et socialement, qu'il entraîne, et la disparition des qualificatifs louables selon ces mêmes critères. Il suffit dans cette perspective de méditer sur la perte de la foi. Le plus infime atome de foi est meilleur que ce monde et tout ce qu'il contient, multiplié de nombreuses fois. Comment alors la vendre pour un plaisir dont la jouissance disparaît tandis que la conséquence demeure? Le désir s'éteint, mais la misère subsiste. Il est authentiquement rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min » Le fornicateur ne fornique pas alors qu'il est croyant. C'est-à-dire que quand il commet ce péché, il perd le qualificatif de la foi parfaite, de la foi complète. Et il devient un croyant pervers, un croyant désobéissant. Et ceci tant qu'il commet cet acte. De même que le voleur, de même que celui qui consomme l'alcool, nous dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Certains compagnons ont dit, la foi lui est retirée jusqu'à ce qu'elle demeure au-dessus de sa tête comme une ombre. S'il se repent, elle lui revient. Et certains parmi les prédécesseurs ont dit, la foi lui est ôtée comme on enlève une tunique. S'il se repent, il la remet. C'est pour cela qu'il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith gravissime. Il nous dit, alayhi salatu wa sallam, az-zunatu fit-tannuri uratan. Ou dans le sens du hadith, les fornicateurs seront nus dans un four, qu'Allah nous en préserve. Il en est ainsi car ils se sont dépouillés du vêtement de la foi et le four du désir qui était dans leur cœur est devenu un four apparent dans lequel ils seront brûlés en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Voyons un peu la gravité et les enjeux sont terribles en fait. Plus on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, plus on perd du bien et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On perd les meilleurs qualificatifs. On perd les meilleurs qualificatifs. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimallah, rationnellement, légalement et même socialement, rationnellement, d'un point de vue de la raison. Quelqu'un qui est dans le vice, dans la débauche, dans la dépravation, du point de vue de la raison, personne n'accepterait de lui donner de bons qualificatifs. Pareil du point de vue légal, religieux, et même du point de vue social. Tu perds tous les bons descriptifs. Et on te décrit alors par ce qu'il y a de plus laid, qu'Allah nous en préserve. Et chaque fois que tu commets des péchés, de l'autre côté, sache que tu perds une grande part de bien. Le sixième point énuméré par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la conscience de la domination et de la victoire. La domination, c'est-à-dire que quand tu arrives à délaisser un péché et appliquer un ordre d'Allah, tu as dominé ton âme et tu as triomphé sur le shaitan. Ibn al-Qayyim nous dit, vaincre la passion et triompher de Satan procure une douceur, un plaisir et une joie à celui qui y a goûté, supérieure à la victoire remportée sur un ennemi parmi les hommes, plus savoureux et plus réjouissant. Quant à son issue, elle est des plus louables, semblable à celle de celui qui boit un remède bénéfique, ayant éliminé la maladie et rendu au corps sa santé et son équilibre. C'est vrai que l'homme est tenté par le péché. Il est tenté par le délaissement d'une obligation ou l'accomplissement d'une interdiction. Et parfois, c'est dur pour l'âme de le délaisser, surtout quand il s'agit d'une habitude, comme le fait de consommer des produits enivrants, fumer. Ce sont des habitudes qui sont ancrées dans les personnes concernées. Mais il faut savoir, toute personne concernée doit avoir à l'esprit que quand tu combats ton âme et quand tu arrives à vaincre le shaitan au point de te débarrasser du péché, tu sens une réjouissance que personne ne peut décrire. Tu te sens heureux d'avoir réussi à vaincre ton âme et à triompher sur Iblis, al-Shaytan. Par contre, tu peux t'interroger toi-même, tout comme tu peux interroger n'importe qui parmi les gens sincères et te demander ou leur demander. Lorsque tu commets un péché, au moment du péché, certes, on a l'impression que tu ressens une jouissance. Mais au fond de toi, seul, la nuit, avant de dormir, n'est-ce pas que tu te dis, j'en ai marre de faire cette chose. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Puis le lendemain, hop, tu mets un masque pour montrer que tout va bien. Mais si tu arrives à délaisser le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu ressentiras en toi le triomphe. Et il faut savoir que tes deux ennemis sont justement ton âme et al-shaytan. Quant à shaytan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-mu'mina la yundi shayatinahu kama yundi ahadukum ba'irahu fi safar » L'un, le croyant, épuise ses diables comme l'un d'entre vous qui épuise sa monture au cours du voyage. Imagine-toi sur le dos d'un chameau, voyageant et parcourant de très longues distances dans un désert aride avec une chaleur intense. Une fois arrivé à destination, après avoir conduit ce chameau et après l'avoir poussé à l'obéir, n'hésitant pas peut-être à lui mettre des petits coups avec un petit bâton ou quelque chose comme ça pour le pousser à avancer, une fois qu'il arrive à destination, il est épuisé. Eh bien toi, plus tu évoques le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, plus tu lui obéis, plus tu combats ton âme, plus tu combats ton shaitan, plus tu délaisses les interdictions, plus tu épuises tes shayatines, et au point de ne plus arriver à te tenter et à te conduire au péché. Et alors, tu sens en toi une grande jouissance. Comme quelqu'un qui a réussi à vaincre son ennemi qui est venu l'agresser. Et quel ennemi est pire que Iblis? Septièmement, Ibn al-Qayyim rahimallah a dit la conscience de la compensation. Le fait d'avoir à l'esprit, si je délaisse cet interdit, Allah me compensera. Il me donnera quelque chose de meilleur. Et si j'applique cet ordre, bien qu'il me paraisse contraignant, Allah me le rendra. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis comme rétribution à celui qui abandonne les interdits pour lui et retient son âme de ses passions, qu'il mette en balance ce qu'il délaisse et ce qui lui est accordé en échange, et qu'il choisisse ce qui mérite le plus d'être préféré et adopté pour lui-même. Regardez la réflexion intelligente que doit mener le croyant. Réfléchis. J'ai une tentation, j'ai une habitude malsaine, mauvaise. Il y a un péché que je commets ou que mon âme m'invite à commettre. Là, on te demande de faire un calcul. On te demande de comparer. De comparer entre ce que tu risques de perdre et ce que tu pourrais obtenir en délaissant ce péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man taraka shay'an lillah, awwadahu Allah khayran min » Quiconque délaisse quelque chose pour Allah, il lui remplacera par meilleur encore. Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawa'id apporte des annotations à ce récit en nous disant que l'âme, dans la plupart des cas, quand elle est accoutumée, quand elle est habituée à quelque chose, elle a beaucoup de difficultés à s'en débarrasser. Et je fais une parenthèse. Nous sommes aux portes du mois de Ramadan. Et je prends l'exemple de nos frères et peut-être quelques sœurs qui sont concernées par l'addiction à la cigarette, par exemple, ou à d'autres produits interdits. Écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Car très souvent, quand on a conseillé des gens d'arrêter de consommer ce produit qui cause du tort à la personne, dans sa santé, dans son argent, dans son environnement, dans son entourage, dans sa famille, et j'en passe, ils répondent « Je sais que c'est une chose mauvaise, mais sincèrement, je n'y arrive pas. » Alors écoutez ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Il dit « Lorsque l'âme a pris l'habitude de commettre quelque chose, un péché, au point que ça soit ancré en elle, dans la plupart des cas, c'est très difficile de s'en débarrasser, mais il existe bel et bien un cas où ça deviendra facile pour la personne de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Ce cas-là a été cité dans le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man taraka shay'an lillah » Quiconque abandonne quelque chose, écoutez bien, pour Allah. Pourquoi est-ce que j'arrête? Je n'arrête pas parce que je perds de l'argent, non plus parce que ma santé s'en voit détériorée, encore moins parce que je cherche une réputation auprès des autres, mais plutôt, tout simplement, parce que mon Seigneur qui m'a donné tous ses bienfaits, desquels je ne cesse de jouir, de jour comme de nuit, attend de moi que je lui obéisse, veut de moi que je sois reconnaissant envers lui. Est-ce qu'il est correct de continuer à consommer ces produits-là avec la santé qu'Allah m'a accordée? Et j'ai acheté ces choses-là avec la subsistance qu'Allah m'a accordée. Et si tu faisais le calcul de ce que l'on appelle l'effet cumulé, additionne toutes ces cigarettes que tu as consommées. Additionne le nombre de paquets que tu as consommés depuis tant d'années, et pose-toi la question, car on a posé la question à des personnes, est-ce que tu as fait le pèlerinage à la Mecque? Ils disent non. Combien de paquets de cigarettes tu as fumé? Quand on lui demande est-ce que tu as fait le pèlerinage, Ils répondent, je n'ai pas eu les moyens de le faire. Mais maintenant, calcule tous ces paquets que tu as achetés. Aujourd'hui, ils t'auraient permis de faire le hajj 3 ou 4 fois et d'en payer peut-être à d'autres personnes. Ni tu as fait le hajj, ni tu as gardé la santé, ni tu as obéi à Allah. Alors, à quand le repentir? Délaissez cela. Délaissez ces mauvaises habitudes et revenez à votre Seigneur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, vous le promet. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, parce qu'il veut plaire à Allah, alors Allah lui remplace par bien meilleur. Ibn al-Qayyim continue et dit, « Wal-iwadu kathir » et la compensation donnée par Allah est de plusieurs catégories. Il dit, « Wa a'zamuha » et la plus grande de toutes les compensations qu'Allah te promet de te donner quand tu délaisses pour lui une habitude malsaine, al-unsu billah, Allahu Akbar. Il met dans ton cœur la proximité avec lui. Parce que très souvent, on entend des gens qui nous disent, je gagne de l'argent haram, 1000 euros, 2000 euros. Si je les délaisse, en retour, Allah me donnera 2000 euros, 3000 euros halal. Ça, c'est qu'une partie des compensations proposées par Allah. La meilleure est que quand tu délaisses cette chose-là haram, Allah te donne dans le cœur un sentiment de proximité tel que tu te mets à te retourner derrière toi et à regarder ce péché que tu as délaissé et tu te dis, subhanallah, moi j'ai commis tout ça et j'ai laissé à cause de ça ce sentiment que je ressens maintenant. Et on a vu des gens avec cet état d'esprit délaisser des péchés immenses. Et pas seulement, ils n'ont plus jamais été tentés de ces péchés-là. Et ils les ont détestés et ils ont convaincu d'autres à les délaisser. Le 8e moyen de se délivrer des péchés, Ibn al-Qayyim rahimallah a dit, la conscience de ce que l'on appelle « ma'iyatullah ». La compagnie ou le fait qu'Allah soit avec le serviteur. Elle est de deux types, générale et particulière. La compagnie générale consiste dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala observe le serviteur et qu'il est sous son regard. Rien de son état ne lui échappe. Cela a déjà été mentionné. Nous sommes tous avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où Allah qui est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, nous voit tous, nous surveille tous, nous entend tous, nous surveille tous subhanahu wa ta'ala. Ça c'est al-ma'iyatul 'am. C'est le fait qu'Allah soit avec le serviteur de manière générale. Mais il y a la deuxième catégorie, qui est al-ma'iyatul khassa. Le fait qu'Allah soit avec le serviteur de façon bien particulière, au sujet de laquelle justement Allah Azza wa Jalla a dit Inna Allaha ma'as sabirin, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun, wa Inna Allaha la ma'al muhsinin. Allah est avec les endurants. Allah est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Allah est avec les bienfaisants. Donc ici, il s'agit du fait qu'Allah est avec le serviteur de façon particulière. Cette compagnie particulière, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, est meilleure et plus bénéfique pour la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà que la jouissance totale des passions du début à la fin de la vie. Comment alors lui préférer un plaisir trouble et imparfait durant une courte période de l'existence? Ce n'est en vérité qu'un rêve de dormeur ou une ombre fugace, une ombre qui va disparaître très rapidement et qui va laisser place, non pas à une lumière bénéfique, mais à un feu ardent qu'Allah nous en préserve. Lorsque tu es tenté dans le péché, lorsque tu es dans la flamme du péché, souviens-toi qu'Allah t'observe. Et quand tu délaisses le péché, réjouis-toi qu'Allah est avec toi, car il nous dit qu'il est avec les endurants. Et parmi ceux qui endurent, ceux qui délaissent le péché, ceux qui appliquent les obligations, ceux-là sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. neuvième moyen de se délivrer des péchés. La conscience de la surprise et de la précipitation. La surprise, c'est-à-dire le fait que la mort arrive à toi et te surprenne. La mort ne t'a pas fixé un rendez-vous que tu connais. Le rendez-vous est fixé chez Allah subhanahu wa ta'ala, sans pour autant que tu le connaisses. La mort viendra de manière précipitée. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit « Craindre que la mort ne le surprenne soudainement et qu'Allah ne le saisisse à l'improviste, le privant alors des délices de l'au-delà. Quelle amère et terrible perte! Mais nul ne la connaît réellement, si ce n'est celui qui l'a éprouvé. » Il est dit dans certains écrits, « Ô toi qui n'es pas en sécurité une seule seconde, et dont la joie ne s'accomplit jamais un seul jour. Prudence, prudence. » Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous parle de la mort qui arrive sans rendez-vous fixé, c'est-à-dire sans rendez-vous connu par le serviteur. Et tout à l'heure, vous avez entendu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment sans que vous ne soyez secourus. وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Et suivez le meilleur de ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, avant que ne vous vienne le châtiment, avant que ne vous surprenne le châtiment, sans que vous ne vous en rendiez compte. أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ. Et qu'une âme se mette alors à dire, c'est-à-dire au moment où ça sera trop tard, une âme se mette alors à dire « Malheur à moi, si seulement je n'avais pas commis des excès envers Allah. Certes, j'étais parmi les railleurs. Je prenais ça comme une blague. La vie pour moi était comme une plaisanterie. Je ne pensais pas à la mort. Je ne me doutais pas un seul instant qu'elle allait me surprendre. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Hatta idha ja'a ahadahumul maut » jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'entre eux. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. Il se met alors à dire « Oh Seigneur, fais-moi revenir !» Il veut maintenant revenir sur terre au moment où c'est trop tard, alors qu'il a vécu une longue vie. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ. Afin que je fasse des bonnes actions dans ce que je délaissais. Mais il lui sera dit « قَالَ كَلَّا إِنَّمَا هِيَ كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Mais non, ce n'est qu'une simple parole qu'il prononce. Allah ne l'acceptera alors pas, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, il faut se remettre en question dans ce point-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait après que il conseille Ibn Umar, qu'Allah l'agré, il lui dit إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ. Quand tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et quand tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Pourquoi c'est important? Parce que bon nombre de gens continuent de commettre des péchés parce qu'ils pensent qu'ils ont assez de temps. Ils se disent « Je vais me corriger bientôt, je vais me corriger. » Une grande ruse de Iblis. Car Iblis sait que la mort va te surprendre. Alors il te fait croire que tu as le temps. Et il te fait croire que tu penses du bien d'Allah. Alors que si tu pensais du bien d'Allah comme il se doit, subhanahu wa ta'ala, tu n'aurais pas tenu de tels propos, mais plutôt tu te serais précipité car tu connais Allah et tu sais qu'il est capable de te surprendre par la date où tu devras quitter ce bas monde. Ô toi qui n'es pas en sécurité une seule seconde et dont la joie ne s'accomplit jamais un seul jour, prudence, prudence. Dixièmement, et pour clôturer cette première partie de ce sujet grandiose, c'est la conscience de l'épreuve et de la préservation. En réalité, l'épreuve n'est rien d'autre que les péchés et leurs conséquences, tandis que la préservation totale réside dans les actes d'obéissance et leurs fruits. Les gens de l'épreuve sont ceux de la désobéissance, même si leurs corps sont en bonne santé, et les gens de la préservation sont ceux de l'obéissance, même si leurs corps sont malades. Certains savants ont dit, à propos de la parole rapportée, lorsque vous voyez des gens éprouvés, demandez à Allah la préservation, car les véritables éprouvés sont ceux qui sont touchés par les désobéissances d'Allah, l'insouciance et le détournement de lui. Bien que ce soit l'épreuve la plus grave, l'expression englobe également ceux éprouvés dans leur corps et dans leur religion, et Allah est plus savant. Subhanahu wa ta'ala. Beaucoup pensent que quand ils voient quelqu'un qui peut-être est malade ou qui n'a pas assez de moyens financiers, c'est lui qui est véritablement éprouvé. Ils disent de lui « miskin, miskin, le pauvre, regarde-le, le pauvre ». Alors que c'est quelqu'un qui est pieux, il endure, et qu'avec cette épreuve-là, il est en train d'atteindre des degrés très élevés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et peut-être que le miskin, c'est bel et bien cette personne qui dit de l'autre « miskin, miskin », parce que lui, il est éprouvé par le haram, par le péché, par le manque de baraka dans sa vie, par le fait d'être loin d'Allah. Qui est le miskin? C'est celui qui est malade ou celui dont le cœur est malade? Je me souviens là d'une parole d'un sage parmi les savants, l'éminent, le Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadiri, rahimahullah, grand savant du Yémen, qui vivait dans un village dans lequel on a vécu, puisqu'on y a étudié, walillah alhamd, qui n'avait pas beaucoup de grands moyens financiers, qui n'avait pas de grandes infrastructures, mais qui avait beaucoup de science et beaucoup de foi. Un hôpital a été construit dans la ville voisine. Et dans cet hôpital, il y a eu des choses qui se sont passées, des péchés, et il y a eu des femmes qui sont venues y travailler, mais qui n'étaient pas vêtues par le vêtement de la foi, le hijab. Et Ibn Sheikh Muqbil, rahimahullah ta'ala, a été attristé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que nos cœurs soient sains, en bonne santé, avec des corps malades, nous est vraiment préférable que d'aller soigner nos corps en rendant malades nos cœurs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les savants savent que le cœur sain, c'est ce qui compte. Parce qu'Allah a dit, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, ce jour-là, la seule chose utile sera de venir rencontrer Allah avec un cœur sain. C'est ça qui est utile le jour dernier. Mais quand tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as vraiment une énorme épreuve. Et c'est pour ça que il y a une des femmes des pieux prédécesseurs qui lui a demandé le divorce 6 mois après le mariage. Il lui a demandé, mais pourquoi ? Elle lui a dit, tu n'as rien fait de mal, mais je vois que tu es en bonne santé, je vois que tu n'as pas de diminution de bien, je vois que tu n'as pas de difficulté, et je crains que cela soit une épreuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah ne t'éprouve pas mais éprouve ton cœur et elle a craint cela. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les femmes à demander le divorce ou les hommes à leurs femmes pour cette raison-là, mais c'est simplement pour vous apporter cette réflexion. Ces gens-là avaient compris, la bonne santé c'est ton qalb, c'est ton cœur, c'est ta relation avec Allah. À quoi ça sert de remplir ton compte et tes poches tout en détruisant ton cœur et ton au-delà? À quoi ça sert de construire dans cette vie d'ici-bas des grandes villas et détruire ta place au paradis? Qu'Allah nous en préserve. Et c'est ça que le croyant doit avoir à l'esprit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min da'watin yad'u biha al-abdu afdal min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal-akhirah. » Il n'y a pas une invocation prononcée par le serviteur qui soit meilleure que de dire « Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fi dunya wal-akhirah. » Oh Allah, je t'implore de m'accorder le salut, al-mu'afa, fi dunya, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a également dit, salallah al-afwa wal-afiyah, demandez à Allah de vous dissoudre vos péchés et de vous accorder le salut, al-afiyah. Fa inna ahadan, لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية. Car l'un d'entre les gens n'aura pas obtenu quelque chose de meilleur après la certitude que l'afia, que le salut. Et la meilleure des afia, le meilleur des saluts, c'est le salut contre le péché et la désobéissance. Voici mes derniers propos pour cette première séance. Je vous invite à suivre l'annonce de la deuxième séance qui viendra certainement pendant Ramadan ou peut-être avant, Allahu ta'ala a'lam. Et j'ai choisi ce sujet-là car nous sommes aux portes du mois de Ramadan et vous avez beaucoup de récits qui vous énoncent le fait que lorsque vous jeûnez, lorsque vous priez la nuit du destin, les péchés sont pardonnés. Il faut donc se débarrasser des péchés afin d'entrer dans Ramadan avec une bonne condition spirituelle. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.